C'est votre punchline week-end en ce vendredi 13. Grosse actualité et à la une ce soir. On va être à Nogent dans quelques instants. Nogent, c'est en Haute-Marne. Une marche blanche va partir dans quelques instants du collège de la commune pour rendre hommage à Mélanie. Mélanie, c'est cette surveillante victime d'une attaque mortelle. Son meurtrier présumé a passé sa première nuit en prison. On sera sur place dans quelques instants avec notre équipe, Chloé Tarka et Antoine Durand. L'autre gros titre de l'actualité, vous le savez, ce sont ces frappes israéliennes en Iran. Frappe sur des sites militaires, mais surtout contre des sites nucléaires. Frappe nocturne menée par 200 avions contre une centaine de cibles. Emmanuel Macron doit s'exprimer. Que dira-t-il ? Tout est, c'est la question. Ce soir, nous serons partout sur Europe 1, sur CNews, avec nos équipes, nos témoignages et nos spécialistes en plateau. Voilà pour notre menu.
18h-19h sur CNews et Europe 1.
Punchline.
Thierry Cabanne.
Plus de 18h sur Europe 1 et sur CNews. On commence par un tour complet de l'actualité. Benjamin Netanyahou s'attend à plusieurs vagues d'attaques iraniennes. Emmanuel Macron s'est entretenu avec le Premier ministre israélien par téléphone. De son côté, l'Iran promet des représailles, a annoncé le président iranien. L'État hébreu a mené une attaque d'ampleur sur des sites nucléaires. De nombreuses réactions internationales. La France réaffirme le droit d'Israël de se protégé. 9 ans après le drame qui avait bouleversé les forces de l'ordre et la France tout entière, Bruno Retailleau s'est rendu au Mureau pour une cérémonie d'hommage au couple de fonctionnaires de police tués. Le procès en appel est prévu pour durer jusqu'au 20 juin. Le ministre de l'Intérieur s'est recueilli. Il dénonce la barbarie islamiste et le degré de sauvagerie de cette terrible nuit. C'était il y a 9 ans. 4 morts et 45 blessés, dont 11 gravement dans un accident d'autocar dans la Sarthe qui transportait des adultes et adolescents ukrainiens. L'autoroute A81 est fermée dans les deux sens pour faciliter l'accès aux secours. Pour l'heure, les circonstances de cet accident et le nombre de véhicules impliqués n'ont pas été communiqués. Et puis, 3 jours après le meurtre de Mélanie à Nogent par un collégien, Elisabeth Borne a annoncé la création d'un protocole de détection de la souffrance psychologique. Chaque établissement scolaire devra se doter d'ici la fin de l'année. Objectif, bien sûr, repérer et prendre en charge les élèves souffrant psychologiquement. Un travail de coopération entre le ministère de l'Éducation nationale et celui de la Santé. Tout de suite, présentation de l'équipe qui m'entoure en ce vendredi soir dans votre punchline sur Europe 1 et sur CNews de Noémie Alioua. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu. Arnaud Klarsfeld, avocat, soyez le bienvenu vous aussi.
Bonjour.
Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions internationales. Bonsoir.
Bonsoir.
Et notre ami fidèle au combien de cette émission, Louis de Raguenel. Bonsoir,
bonsoir
mon cher Louis. On va donc commencer, si vous le voulez bien, par prendre la direction de Nogent, en Haute-Marne. Une marche blanche, je vous le disais, va partir dans quelques instants du collège de la commune en hommage à Mélanie. Mélanie, c'est donc cette surveillante sauvagement tuée par un collégien de 14 ans. Et on va retrouver sur place notre équipe, Chloé Tarka et Antoine Durand. Bonsoir Chloé, la marche a-t-elle débuté ou est-elle sur le point de débuter? Il y a du monde, quelle est l'ambiance? Beaucoup d'émotions, je suppose, Chloé.
Énormément d'émotions, oui, bien sûr. La marche est sur le point de s'élancer. Nous sommes devant le collège Françoise Dolto. Elle doit rejoindre la mairie de Nogent, située à une centaine de mètres d'ici. Comme vous pouvez le voir, la foule est très nombreuse. Ils sont plus de 1000 personnes à vue d'œil, vêtues de blanc pour la plupart, sur de nombreux t-shirts. On peut voir le visage souriant de Mélanie. En tête du cortège, la famille de la jeune femme est soudée. Nous avons pu échanger un peu plus tôt avec une proche de Mélanie. Elle a demandé aux journalistes de rester quelque peu à distance pour ne pas capter, selon elle, leurs larmes ni cette douleur qu'elle juge trop intime. Derrière eux, les habitants de Nogent et des communes alentours, des élèves, des familles, tous sont venus rendre hommage. On peut voir aussi des banderoles avec ces mots « Repose en paix Mélanie », accompagnée de photos de la jeune femme. Enfin, un détail marquant, vous le voyez peut-être sur les images d'Antoine Durand, les couleurs du cortège, du blanc, bien sûr, mais aussi du vert, du bleu, du rose, autant de teintes vives, un choix voulu par la famille pour saluer la mémoire d'une jeune femme pleine de joie, un vrai rayon de soleil comme nous l'ont confié à plusieurs reprises ses proches. Le cortège est sécurisé par les services de la préfecture et aucune prise de parole n'est prévue à l'issue de cette marche. Là encore, c'est le souhait de la famille, préserver leur intimité dans ce moment de recueillement.
Merci beaucoup Chloé Tarka et Antoine Durand depuis Nogent. En Haute-Marne, et je le dis pour les auditeurs d'Europe qui ne dispose pas de cette image, mais il y a une foule immense ce soir à Nogent. Émotion énorme. Louis de Raguenel, évidemment.
Ben, je pense que oui, toute la France a été sidérée par la mort de cette surveillante par un élève qui en plus ne présentait pas le profil habituel. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui était sous OQTF, c'est quelqu'un qui était très bien inséré. Mais en tout cas, c'est ce que dit le procureur de la République lors de sa conférence. C'est quelqu'un qui n'était pas addict aux réseaux sociaux. Et pourtant, voilà, c'est, si vous voulez, c'est une mort qui interroge beaucoup parce que toutes les solutions immédiates, les réponses politiques qui sont apportées, évidemment, ne répondent pas à ce qui s'est passé. Et on voit bien, tu sais, ça a été le concours Lépine des
propositions.
Bonnes idées, avec les uns qui proposaient des portiques pour détecter les couteaux, et on sait bien que les lames en céramique ne sont pas détectées par ces portiques de sécurité. Les autres qui disaient au gouvernement qu'il faut interdire la vente de couteaux à tous les mineurs, là, en l'espèce,
le meurtrier
s'est servi dans la cuisine de ses parents, ou encore des idées comme l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Tout ça, pourquoi pas? Non, mais ça peut être des pansements pour pallier un certain nombre de maux de la société. Mais la classe politique, en tout cas, ne répond pas encore à la question comment est-ce que structurellement on peut répondre à ce fléau-là, et qui manifestement est beaucoup plus profond que des simples réponses comme ça, très concrètes, un peu comme les politiques ont l'habitude de faire. On voit bien que c'est quelque chose de plus civilisationnel, avec des vrais questionnements autour de l'autorité, autour de la répartition du rôle dans le cadre de l'instruction des enfants ou de l'éducation entre l'école et les familles. Voilà, ça pose un certain nombre de questions profondes, même sur l'organisation de la vie en société. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse concrète. Et je note simplement une chose, c'est que Bruno Retailleau, lorsqu'il s'est exprimé à l'issue de ce drame, justement a expliqué qu'il n'y avait pas de solution miracle et que ça interpelle, quoi. Il y a une espèce de bug collectif autour de ce cas-là, puisqu'on ne sait pas. Et je pense qu'il faut admettre il y a quelques politiques qui admettent que voilà, il n'y a pas une réponse avec une baguette magique qui s'impose aujourd'hui.
Noémie, ce qui est terrible, c'est que cet ado a un rapport avec la mort, ce que disait le procureur, ça ne l'interpelle même pas.
C'est ça qui est.
Il ne regrette rien. Sans empathie totale.
Froideur
absolue.
Et c'est-à-dire que les éléments qu'on a en notre possession au regard de l'enquête qui continue,
et surtout en fonction de la communication du procureur,
de comprendre ce qui a pu avoir lieu et quel est véritablement le mobile. J'écoutais également, comme vous, la conférence de presse du procureur. Il y avait deux choses qui m'avaient frappée. La première, c'est effectivement la bestialité de l'acte pour un jeune garçon. 14 ans, qui s'est saisi d'un couteau et qui a mis une dizaine de plaies dans le corps de sa victime, dont une de 18 cm qui lui a coûté la vie. Donc il faut faire preuve d'une forme de sauvagerie très particulière pour faire ce genre de crime. Et en même temps, dans les premiers témoignages qui ont été recueillis et qui ont été rapportés par le procureur, on voit aussi paradoxalement cette froideur affective, puisque ce jeune garçon ne semblait pas éprouver la moindre compassion, le moindre regret. Ces deux éléments qui sont d'apparence assez paradoxaux, qui nous frappent dans cette affaire, il est encore très difficile de la comprendre, de l'interpréter, et parfois il faut être un petit peu modeste. Je rejoins ce que dit Louis, il faut attendre d'avoir plus d'éléments pour comprendre exactement ce qui a pu avoir lieu, et avant de pouvoir vraiment interpréter les choses.
Arnaud Klarsfeld.
Pour ce cas précis, je n'ai pas les éléments pour juger, mais je ne crois pas que la violence en France des jeunes soit causée par les portables, je ne crois pas qu'elle soit causée par les romans, je ne crois pas qu'elle soit causée par les jeux télévisés, mais je crois qu'elle est causée par une société qui ne réprime pas la violence dès qu'elle se produit, et en laissant la violence perdurer comme ça, eh bien, elle augmente, et j'espère que les pouvoirs publics commenceront en tous les cas à réprimer la violence dès qu'elle se produit. Pas les autres délits, mais la violence est quelque chose qui gangrène notre société et sape sérieusement ses fondements.
On y reviendra au cours de la fin de cette émission, mais la grosse actualité du jour, vous la connaissez évidemment, on vous raconte sur CNews depuis ce matin, ce sont ces frappes israéliennes contre des sites nucléaires iraniens. Près de 200 avions ont frappé. Il y a des victimes, des hauts responsables iraniens, des scientifiques aussi, et on va prendre la direction d'Israël, retrouver Frédéric Simon. Bonsoir Frédéric Simon, vous êtes correspondant d'Europe 1 en Israël, merci d'être avec nous ce soir. Quel est l'état d'esprit en Israël ce soir ?
On peut dire qu'il est partagé entre l'inquiétude et une certaine satisfaction, tout de même l'inquiétude, parce qu'on s'attend à une riposte cinglante de la part de l'Iran. Le directeur du Centre de sécurité nationale, Sergei Hanegbi, a été on ne peut plus clair, il y aura une riposte, nous allons au-devant de journées difficiles, il y aura des victimes. Plutôt dans la journée, Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, mettait en garde ses concitoyens, en leur affirmant qu'il était probable qu'ils devront rester dans les abris, dans les espaces protégés plus longuement que ce à quoi ils s'étaient habitués. Mais il y a aussi cette satisfaction exprimée par des responsables civils et militaires et ressentie par de nombreux Israéliens d'un point de vue opérationnel. Les premières heures de cette offensive sont en effet un véritable succès. De nombreux entrepôts et rampes de lancement de missiles ont été détruits. Des systèmes de communication, des centres de commandement de l'armée et des gardiens de la Révolution ont été sérieusement endommagés. Et puis, vous l'avez dit, la haute hiérarchie militaire du régime des Mollahs a été quasiment décapitée. De nombreux généraux ont en effet été tués dans les frappes israéliennes, parmi lesquels le numéro 1 des gardiens de la Révolution, le commandant des forces aériennes et le chef d'état-major des forces armées.
Frédéric Simon, autre question qui se pose ce soir. On ne sait pas à quel point justement ces installations nucléaires iraniennes ont été touchées. On n'a pas la réponse encore précisément ce soir.
Ouais, en effet, c'est toute la question. On sait qu'il y a des frappes sur la centrale de Frodo et puis Benjamin Netanyahu a affirmé qu'Israël avait détruit en partie, en tout cas le centre d'enrichissement d'uranium de Natanz. Mais on sait que ces installations nucléaires iraniennes sont pour la plupart profondément enfouis sous terre, d'où la difficulté de les atteindre avec efficacité. Il faut savoir aussi que deux scientifiques impliqués dans le programme nucléaire auraient trouvé la mort dans les frappes israéliennes. Et c'est intéressant parce qu'ils étaient spécialisés, ces scientifiques, dans un aspect essentiel du programme nucléaire iranien, l'assemblage d'ogives nucléaires sur des missiles de longue portée. Et c'est un aspect sur lequel les Iraniens avaient manifestement effectué de réels progrès au cours de ces derniers mois. C'est un acquis, mais Israël n'a pas encore atteint l'ensemble de ses objectifs. Netanyahou a d'ailleurs déclaré que l'opération durera le temps qu'il faudra.
Merci beaucoup Frédéric Simon, correspondant permanent d'Europe 1 en Israël. On marque une pause sur Europe 1 et sur CNews et on ouvre le débat avec nos invités du soir sur ce Punchline Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. A tout de suite.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 E-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Vous avez un nouveau message.
Allô patron, faut que je vous dise, Lidl chipote pas sur les chipots. En ce moment, les 12 chipots Lata supérieurs aux herbes sont à moins 27%, soit 4,69€ au lieu de 6,49€. Et du porc origine France, hein.
39 centimes la chipolata.
Mais on est grillés.
Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidlestmoinschers.fr. 660 grammes, 7,11€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au 18 juin. Plus d'informations sur lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Pain au chocolat ou chocolatine?
Ah, je sais pas.
Mer ou montagne?
Aucune idée.
Volkswagen. J'ai pas dit la fin.
Ah mais Volkswagen, oui.
C'est parfois facile de choisir. Surtout pendant les instants Volkswagen du 12 au 16 juin, avec le T-Roc à partir de 169€ par mois. Pour l'achat d'un T-Roc VV édition 9, LLD 37 mois, premier loyer de 4000€, puis 36 loyers de 169€, si acceptation par Volkswagen Bank. Offre valable du 1er au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Chez Optical Center, renouvelez vos lunettes tous les ans sans aucun reste à charge. On a tous une bonne raison de ne pas changer de lunettes, que ce soit parce qu'on ne trouve pas de rendez-vous, qu'on voit encore bien avec les anciennes ou parce que c'est trop cher. Pourtant, si votre correction a changé, vous pouvez renouveler vos lunettes chaque année sans aucun reste à charge chez Optical Center. Bénéficiez sans attendre d'un examen de la vue 100% pris en charge et choisissez vos nouvelles lunettes. Optical Center, voir le beau, entendre le bien. Optical Center. Dispositif médical, conditions en magasin, valable jusqu'au 31 décembre.
CNews et Europe 1, Punchline.
Des débats, de l'analyse, du décryptage, c'est dans Punchline. On revient dans un instant.
Oh là, j'en peux plus de ces bouchons là.
Ah ouais, c'est marrant ça, moi je trouve ça très bien moi ça.
Comment ça tu trouves ça très bien?
Ben pense un peu aux autres fistons qui aient le temps d'admirer ma nouvelle Aygo Cross avec son toit ouvrant et ses jantes 18 pouces. Eh oui.
Venez découvrir la Toyota Aygo Cross, disponible à partir de 119€ par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end.
Oh, j'avance, oh là là.
Toyota Aygo Cross Dynamic LLD, 37 mois, 30 000 km. Premier loyer, 3 990€, réservé aux particuliers dans le réseau participant pour toute commande jusqu'au 30 juin. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos cerises Origine France sont tout d'une très bonne cerise. Sucrées et irrésistibles, elles autorisent certains amusements comme
« Les enfants, papa, des cerises en boucle d'oreille, c'est cool, non ?»
Oui, vraiment. Nos cerises ont tout d'une très bonne cerise, mais à prix discount. 3,49€ la barquette de 500 grammes au lieu de 4,99€. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. En ce moment chez Aldi, soit 30% de remise immédiate, 6,98€ le kilo versus 9,98€. Offre valable jusqu'au samedi 14 juin. Info sur aldi.fr.
Europe 1.
Rejoignez-nous sur l'antenne d'Europe 1. C'est la famille, on est tous ensemble.
Je suis tombé amoureux.
Mais de qui ?
D'Europe 1.
Oh, oh !
Qu'est-ce que vous feriez, vous, par exemple, si vous gagniez 155 millions ?
Je vous donne la moitié.
Non, mais sérieusement,
je
rachète Pascal Pro.
N'oubliez pas qu'ici, on vous aime.
Europe 1.
Et que nous, on vous aime fort.
La radio libre. Hâte de partir cet été, mais je crains les galères en voiture.
Tu veux rouler tranquille ? Choisis les pneus Michelin, conçus pour assurer ta sécurité tout au long de leur durée de vie. T'en profiteras même après les vacances.
Tiens, du 2 juin au 27 juillet, il y a une promo sur les pneus Michelin. Jusqu'à 120€ TTC remboursés pour l'achat de 4 pneus voiture. J'achète ?
Retrouvez les modalités de l'offre sur Michelin.fr, rubrique promo.
Voyage en Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km de paysage, un seul plein et zéro recharge. Le moteur s'adapte entre thermique ou électrique pour 1100 souvenirs. Nouveau Renault Austral Full Hybrid E-Tech dès 400€ par mois. 2 mois de loyer offert. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Renault, numéro 1 de l'hybride en France.
Austral Evolution Full Hybrid 200€ option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 5000€. Troisième et quatrième loyer offert. SIA Cordiaque. Offre à particulier du 12 au 16 juin. Numéro 1 des ventes depuis 2024. Source 3 à date à mai 2025. Voir Renault.fr. Pensez à covoiturer. Punchline, 18h-19h, Thierry Cabane sur CNews et Europe 1.
18h16, merci de nous accueillir sur Europe 1 et sur CNews. C'est votre Punchline Weekend jusqu'à 19h. L'équipe qui m'entoure en ce vendredi 13. Noémie Allioua est toujours là, Arnaud Klaasfeld toujours présent, Patrick Martin-Jeunier est toujours présent, Louis de Ragnel toujours présent. Il y a un petit côté scolaire quand je fais l'appel. On va revenir sur cette grosse actualité, évidemment. On vous la raconte depuis ce matin, c'est cette attaque israélienne en Iran sur le site nucléaire. Je vous propose d'écouter la réaction du président iranien. Et on prend la direction d'Israël avec Lise Ben-Kemoun qui sera juste après. Bon, d'abord, on écoute la réaction du président iranien.
Cet acte brutal, contraire à toutes les obligations internationales, confirme la nature criminelle du régime sioniste illégitime qui a bâti son existence sur l'occupation, l'agression et l'infanticide. Bien sûr, la nation iranienne et les responsables du pays ne resteront pas silencieux face à ce crime. Et la réponse légitime et puissante de la République islamique d'Iran fera regretter à l'ennemi son acte insensé. La République islamique d'Iran, qui déploie tous ses efforts pour instaurer la paix et la stabilité dans la région et qui s'est engagée dans de longues négociations, prendra des mesures décisives en réponse à l'agression dans le cadre de la défense légitime de l'intégrité du pays.
Allez, on va rejoindre dans quelques instants Lise Ben-Kemoun, mais avant qu'elle se connecte, Noémie Allioua, petite réaction sur cette prise de position et cette réaction, puisqu'il le dit, le président iranien, notre riposte sera vigoureuse.
Oui, un petit mot, parce qu'on a entendu une intervention du président qui est intéressante. Vous avez bien vu qu'il ne prononce pas le mot d'Israël, parce que l'Iran ne reconnaît pas l'État d'Israël, comme un certain nombre de pays musulmans et des pays arabes. Et donc, il parle de l'entité sioniste. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de rappeler... peut-être une partie des déclarations qui ont été dites par Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution, parce que quand même, là, nous arrivons à l'épilogue, ou en tout cas, un épisode de cette saga qui dure depuis un certain temps, mais il faut bien comprendre que la haute direction iranienne multiplie les appels à l'éradication d'Israël depuis déjà très longtemps. Vous savez bien qu'Ali Khamenei, lorsqu'il s'agit d'Israël, évidemment, il parle de l'entité sioniste, c'est toujours le terme qui est utilisé, et il parle d'une d'une tumeur cancéreuse. Il parle toujours d'une entité sioniste à détruire. Il faut comprendre le contexte et la façon dont l'Iran menace Israël depuis des décennies pour comprendre aussi pourquoi aujourd'hui c'est une obligation et c'est inéluctable pour Israël de s'attaquer à ce programme nucléaire qui, de toute évidence, et pas seulement par des sources israéliennes. Je rappelle que hier, l'AIEA, donc l'organisation onusienne chargée de vérifier et d'expertiser les programmes atomiques, montrait bien que le programme nucléaire iranien n'était pas un programme civil, que l'enrichissement de l'uranium dépassait très largement les taux d'un programme civil, et donc qu'en bref, que l'Iran prépare une bombe atomique. Et donc, il est très difficile pour Israël de considérer si elle ne l'a pas déjà. On comprend pourquoi c'était obligatoire pour Israël d'agir.
Et nous sommes avec Lise Ben-Kemoun. Bonsoir Lise, vous êtes notre correspondante permanente en Israël. Nous sommes parlé ce midi. Quel est l'état d'esprit quelques heures après? Vous avez entendu le président iranien. La riposte sera vigoureuse. Il y a eu d'autres réactions encore plus virulentes. Quel est l'état d'esprit, le climat au moment où on se parle, Lise?
On savait très bien, quand Israël a lancé cette opération, que la riposte aurait lieu et qu'elle serait sans doute vigoureuse. Après, c'est vrai que pour l'instant, on est prudent. Reuters vient d'expliquer que normalement, cette riposte aurait lieu dans les prochaines heures de ce soir. Le mur des lamentations, qui normalement n'est jamais fermé, a été vidé ce soir. Il n'y a pas d'office dans les synagogues. Tout le monde, normalement, est censé rester près des abris et être prêt à tout. Benjamin Netanyahu a pris la parole tout à l'heure pour faire un deuxième bilan de ces attaques et il a mis en garde contre cette riposte. Il a dit aux Israéliens, il faut s'attendre à une attaque contre nous et ça peut prendre la forme d'assaut par vague très sévère. Donc, il a recommandé vraiment la prudence à tous les Israéliens. D'un autre côté, c'est évident que les généraux aussi sont prêts à ça. Ils le savaient en lançant cette opération. L'un d'eux a dit tout à l'heure que l'ennemi allait intervenir et qu'il fallait minimiser les dégâts et préserver la capacité offensive d'Israël. L'armée israélienne a d'ailleurs commencé à déployer des réservistes qui proviennent de toutes les unités partout sur tous les théâtres d'opération de cette guerre. Donc on sent bien qu'il y a une tension, mais c'est un peu entre guillemets le calme avant la tempête à l'heure où on se parle, Thierry, parce que là bien sûr on sait ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui va arriver. Le gouvernement iranien lui-même a diffusé une déclaration sur les téléphones de ses citoyens promettant de venger ses martyrs et de faire une grande attaque. Ils ont dit on n'a pas encore commencé la guerre, mais la fin de cette histoire sera écrite par l'Iran. Donc bien sûr qu'on s'attend à une riposte, mais pour l'instant, il faut avouer que l'opération israélienne est tout de même assez impressionnante et de toute façon, elle était inéluctable, comme l'a rappelé le Premier ministre israélien. Si l'Iran possède l'arme nucléaire, Israël cesse d'exister. Donc, il n'y avait pas d'autre choix. C'était très important. Et ça, bien entendu, c'est sans compter sur la menace balistique qui, elle aussi, est énorme. On parlait d'un système qui produit 300 missiles par mois. Ça fait 10 000 missiles en 3 ans. Donc, voilà, c'était extrêmement important et vital pour Israël de s'attaquer à la tête de la pieuvre. On sait que l'Iran mène une guerre multifront contre Israël, à la fois avec le Hamas, avec le Hezbollah, avec les Houthis du Yémen, avec tout ce qu'elle peut utiliser pour détruire, comme disait Noémie, l'entité sioniste. Et ils ont des missiles d'une portée de plusieurs milliers de kilomètres. C'est un danger pour Israël, c'est un danger pour la région, c'est un danger pour le monde entier.
Lise, dernière question et une réponse très, très rapide. Israël, en fait, a fait le job que d'autres ne veulent pas faire, en fait, hein, ce soir. C'est ce qu'on peut dire.
Oui. C'est vrai, absolument, mais on espère que justement ces gens-là le verront. Et on peut dire déjà en Israël qu'on se réjouit par rapport à la position d'Emmanuel Macron qui a discuté avec Benjamin Netanyahu alors qu'il y avait une grande tension entre les deux pays ces dernières semaines. Le fait qu'il ait décidé déjà de reporter la conférence internationale pour la reconnaissance de l'État palestinien, c'est qu'il a compris qu'il y a quelque chose qui se jouait aussi. Et on le dit depuis le début, mais c'est une guerre de civilisation et Israël est là aussi pour défendre les valeurs de l'Occident.
Merci beaucoup, Lise Ben-Kemoun, notre correspondante permanente en Israël. Merci beaucoup pour ce témoignage.
Vous voyez, les téléspectateurs peuvent voir Lise s'exprimer devant une photo ou devant le panorama de Tel Aviv. Il suffit d'une bombe pour détruire, en gros, Israël. Et même si Israël réplique, On disait tout à l'heure, l'Iran est 80 fois plus grande que l'Iran, et donc quelques bombes atomiques sur l'Iran, l'Iran restera, tandis qu'Israël sera détruit. Donc Israël n'a pas anticipé le 7 octobre, ça a été dramatique. Israël n'a pas anticipé.
Et ça a été beaucoup reproché au Premier ministre
israélien. Israël n'a pas anticipé la guerre de 73, ça a failli être la fin d'Israël. Donc il vaut mieux qu'Israël agisse parfois préventivement pour éviter les catastrophes. Et je ne doute pas une seconde que si l'Iran a la bombe et la possibilité de l'envoyer sur Israël, que l'Iran l'enverra sur Israël. Ou que le gouvernement iranien l'enverra sur Israël, parce qu'il n'y a pas de raison que le peuple iranien, ils sont séparés par la Jordanie et par l'Irak, par 2000 kilomètres. Ils ont eu de bonnes relations sous le Shah d'Iran. Ils n'ont pas, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas de bonnes relations aujourd'hui.
Arnaud Clairson, merci. Patrick, ça tombe plutôt aussi à point nommé. Hein. On sait que le Premier ministre israélien a sauvé de très peu sa coalition et que ce succès incontestable qu'on commente depuis ce matin arrive à point nommé pour lui aussi.
Oui, tout à fait. D'autant qu'il a une coalition qui est fragile.
Et oui.
Vous savez que ces deux ministres, d'ailleurs, ont fait l'objet de sanctions personnelles de la part du Royaume-Uni, M. Benzir et Smotrich, qui sont deux ministres extrémistes du gouvernement, qui tiennent en réalité la coalition. Hein, donc il a aussi là cette volonté de montrer qu'il est capable de riposter, mais il fallait être naïf pour penser que l'Iran n'avait pas cette capacité nucléaire. Il y a plus de 90% d'enrichissement d'uranium, bien évidemment qu'ils avaient cette capacité. Ce qui est important aujourd'hui, moi la question que je me pose, c'est que peut faire l'Iran ? Certes, il peut frapper Israël, mais on a bien vu que les dernières ripostes, en fin de compte, avaient été un échec, et heureusement. De quel type de riposte l'Iran est-elle encore capable aujourd'hui, alors qu'il y a quand même un pays qui est très très fragilisé, premièrement, et deuxièmement, il y a un atout très important pour Israël, c'est que finalement, si tout le monde dans la région condamne plus ou moins cette intervention, en réalité, il n'y a aucun pays, que ce soit la Jordanie, que ce soit l'Arabie Saoudite ou d'autres, qui ont intérêt à soutenir une opération qui pourrait être une opération de représailles de l'Iran contre Israël. Personne n'acceptera une riposte. Pourquoi ? Même la Jordanie, on l'a dit, on parlait tout à l'heure d'une coalition avec la Jordanie et la France, bien évidemment que ces pays n'ont pas du tout intérêt à ce qu'il y ait un embrasement dans la région. Et enfin, ce qui est important, c'est que d'ores et déjà aujourd'hui, les États-Unis et l'Europe affirment haut et fort leur capacité de soutien à Israël dans l'hypothèse où des drones tomberaient. Il faut que la France, il faut que les États-Unis disent oui, nous intercepterons des drones si jamais Israël est attaqué. Et enfin, dernier élément, c'est un élément peut-être important, certains sont sceptiques, mais de dire que Trump doit absolument faire pression pour qu'il y ait un retour de l'Iran à la table des négociations. Est-ce que cela, je sais que certains sont très très pessimistes à ce sujet, est-ce que cette frappe, qui à mon avis est quand même un affaiblissement du régime iranien, va forcer ce régime à retourner à la table des négociations?
Alors on va parler politique, Louis de Ragnel, puisque... Emmanuel Macron doit intervenir à 18h40,
autour si vos informations sont bonnes. En ce moment même, il est en train de parler au téléphone avec le président égyptien, le maréchal Sissi.
Très bien. Louis de Ragnel, notre spécialiste politique. Alors, on va en parler dans quelques instants, mais je voudrais vous faire écouter les réactions de François Bayrou. Et on commente et on décrypte ensemble ce soir sur CNews et sur Europe 1. François Bayrou.
Ce que la France a condamné depuis longtemps, c'est la prolifération nucléaire à laquelle l'Iran, avec son régime, se livre depuis longtemps. Et ce que la France dit, c'est que les États de la région, y compris Israël, ont le droit de se défendre et d'empêcher que le pire des accidents puisse arriver dans les temps qui viennent. Et après, tout le monde voit bien que tout ceci, c'est des éléments de danger pour le monde. Mais en Ukraine... en Extrême-Orient, partout, y compris en Occident, il y a aujourd'hui des risques qui n'existaient pas hier. Et donc, tout le monde dit, au fond, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas une dégradation et une explosion.
François Bayrou, Louis de Ragnel, la France réaffirme le droit d'Israël à se protéger. On attend avec attention la prise de parole d'Emmanuel Macron.
On verra s'il y a un alignement entre ce que dit François Bayrou et Emmanuel Macron, et on voit que François Bayrou dit pas exactement la même chose, par exemple, que Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères.
C'est flagrant.
Comment ?
C'est flagrant.
Ah, mais voilà, bon, après, ça fait partie des joies des coalitions politiques instables, où chacun peut dire un peu ce qu'il veut. Mais on voit bien que François Bayrou commence par insister sur le droit qu'Israël a à se défendre, sur le danger que représente le régime des Mollahs en Iran. Donc voilà, donc on attend de voir ce que va dire Emmanuel Macron, qui est un peu coincé parce qu'il s'apprêtait à lancer une initiative pour reconnaître la Palestine et inciter d'autres pays à reconnaître la Palestine. Et donc, patatras, c'est arrivé au mauvais moment pour lui. Et heureusement d'ailleurs qu'il a renoncé. Enfin, on verra d'ailleurs s'il confirme vraiment qu'il renonce à ce souhait, en tout cas tel qu'il le souhaitait initialement. Mais s'il persistait, à mon avis, ce serait catastrophique en termes d'image de la France, qui est quand même, on a une image qui est quand même assez mauvaise. On est complètement à l'extérieur.
Vous êtes gentil en disant ça.
On est complètement mal avec la Russie, mal avec les États-Unis.
On est complètement à l'extérieur de tout ça. On voit bien que l'histoire, elle se joue sans nous dans la région. Et ça se joue entre les Américains et les Israéliens.
Il n'y a pas que sur ce dossier.
Et nous, manifestement, on n'est pas un partenaire aujourd'hui qui est informé, qui est mis dans la boucle, tout simplement parce que aujourd'hui, on a fait la démonstration qu'on était plus fiable.
Vous avez vu ce qu'avait dit l'ambassadeur d'Israël en France, hein. Ben non, on n'a pas vraiment spécialement tenu au courant les Français.
Bien sûr. Voilà. Et puis vous voyez simplement
ça veut tout dire, hein.
Ce petit symbole qui est pas un petit symbole d'ailleurs, c'est la fermeture quand même des accès pour le public de quasiment toutes les ambassades d'Israël dans les pays d'Europe, et à commencer par la France.
Allez, il est 18h30 et je suis à l'heure. C'est un exploit. Maureen Vidal est avec nous ce soir sur Europe 1 et sur CNews. On fait un tour complet de l'actualité avec vous, ma chère Maureen. Bonsoir.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, une marche blanche se déroule actuellement à Nogent en hommage à Mélanie, cette surveillante de 31 ans tuée mardi par un collégien. Le point de départ était le collège Françoise Dolto. De nombreuses personnes sont présentes. La mairie de la ville avait annoncé 1 millier de participants à venir. L'émotion est forte dans cette ville de Haute-Marne. Le parquet de Grenoble a annoncé faire appel de la condamnation à une amende de 450 euros de l'influenceur algérien Imad Tintin. Ce dernier avait été jugé pour une vidéo considérée comme menaçante. Le procureur estime que la contravention de 3e classe n'est pas la réponse adaptée. Et un dernier adieu à Philippe Labrosse. Vendredi, ses obsèques se sont déroulées en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. De nombreuses personnalités sont venues rendre hommage aux journalistes, paroliers, cinéastes, Laetitia Hallyday, Rachida Dati, Sophie Davant ou encore Patrick Cohen. Philippe Labrosse est mort le 4 juin dernier à l'âge de 88 ans.
Merci beaucoup, ma chère Maureen Vidal. On va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants, puisqu'on attend l'intervention. Louis de Ragnel, vous avez dit à 18h40. On verra si vos informations sont bonnes.
Ah ben alors là, non, si je ne m'engage absolument
pas. Vous engagez pas sur Europe 1 sur CNews.
C'est du président de la République.
En tous les cas, nous, on va être ponctuels. On marque une pause de pub. A tout de suite.
Punchline sur CNews et Europe 1.
18h-19h, Thierry Cabane. Parfois grand, c'est vaste. Parce que parfois grand, c'est énorme. Et parfois énorme, c'est immense. Mais parfois grand, c'est juste grand. Et parfois, c'est juste ce qu'il vous faut. Nouveau Dacia Bigster, grand coffre, grande autonomie moteur hybride et petit prix. Dacia Bigster, à partir de 24 990 euros, est maintenant disponible en motorisation GPL. À découvrir durant les portes ouvertes du 12 au 16 juin. Prix conseillé pour l'achat d'un Dacia Bigster Essential Mild Hybrid 140, 9 hors option selon tarif du 3 juin 2025. Conditions sur Dacia.fr. Pensez à covoiturer.
Vous préférez inventer le vaccin anti-souci ou la recette du bonheur en papillote? Il y a des choix difficiles à faire, on est d'accord, comme choisir entre la qualité et le prix. Heureusement pour ça, il y a la paire. Du 5 au 23 juin, pendant les 18 jours pour tout rénover, il y a jusqu'à moins 20% sur les fenêtres Pria Performance en PVC, sur mesure et haute isolation. Entre la qualité et le prix, choisissez les deux. Choisissez la paire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. La paire, il n'y en a pas deux. Conditions en magasin et sur lapaire.fr.
Audi, sans compromis. En ce moment, le meilleur du design et de la technologie Audi hybride rechargeable est plus accessible que jamais. Jusqu'au 30 juin, découvrez la nouvelle A5 Avent ou encore la nouvelle A3 Sportback à partir de 390 euros par mois sans apport. Et profitez de son autonomie totale de plus de 900 km. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre en LLD réservée aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Qui dit super jour gamme vert, dit super promo. Alors rendez-vous demain chez Gamme Vert pour le super jour. Profitez de moins 15% sur tout le magasin sur présentation de la carte de fidélité. Moins 15%. De quoi devenir un super autoproducteur. Gamme Vert, l'autoproduction et l'avenir. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr.
CNews et Europe 1, Punchline.
Des débats, de l'analyse, du décryptage, c'est dans Punchline. On revient dans un instant.
C'est ça, c'est le nouveau Citroën C3 Aircross. Il est beau, hein ? Et pour hiberner avec vos oursons, on passe facilement de 5 à 7 places. Oui, bah c'est vrai que c'est pratique. Hein.
Pour les amoureux de grands espaces et de confort, nouveau Citroën C3 Aircross à partir de 19 700 euros. Également disponible en électrique et hybride. Découvrez-le pendant les portes ouvertes du 13 au 16 juin.
Citroën.
Tarif conseillé à particulier jusqu'au 30 juin pour l'achat d'un nouveau C3 Aircross U hors option. Détails sur citroën.fr selon réseau participant. Pensez à covoiturer.
Carrefour. Quand vous me dites, alors cette année, le meilleur cadeau pour la fête des pères, ce sera une sieste et une pomme-pote pour les enfants. Eh bien, ça me donne envie de vous dire qu'il y a 50% de remise immédiate sur le deuxième produit pomme-pote acheté. Et c'est valable sur tout pomme-pote. Alors rendez-vous jusqu'au 22 juin chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Rouler en électrique ou hybride ? Ok. Avec la qualité allemande ? Évidemment. Et sans dépasser son budget ? Toujours. Avec Opel, vous cochez toutes les cases. Pendant les portes ouvertes, Opel vous offre jusqu'à 8000 euros d'avantages clients sur une sélection de véhicules disponibles immédiatement. Alors n'attendez plus, rendez-vous chez votre concessionnaire Opel. 8000 euros se composant d'une remise sur le prix d'une Opel Astra hybride rechargeable neuve et d'une prime reprise. Offre à particulier sur véhicules en stock jusqu'au 24 juin dans le réseau participant. Détails sur opel.fr. Pensez à covoiturer.
Radio,
enceinte connectée,
ordinateur,
tablette, mobile,
en FM, streaming ou DAB+,
écoutez Europe 1,
partout.
Leclerc, bonjour.
Bonjour, mon dictionnaire me dit concombre, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Oui.
En fait, c'est concombre français, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Et pour son prix, car du 13 au 15 juin, les concombres français sont à 1,35€ les deux. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer dans votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 68 centimes la pièce du lot indivisible, catégorie 1, calibre 300-400 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Punchline, 18h-19h, Thierry Cabanne sur CNews et Europe 1.
18h36, merci de nous accueillir sur Europe 1 et sur CNews. C'est votre punchline du week-end, c'est la dernière ligne droite. Toujours à mes côtés pour commenter cette actualité de ce vendredi 13. Actualité, c'est vrai, il faut le reconnaître, assez chargée. Noémie Alioua m'accompagne, Arnaud Klarsfeld, Patrick Martin-Jeunier et Louis de Ragnel. On va poursuivre évidemment nos débats. On sait que Emmanuel Macron doit prendre la parole incessamment sous peu. Si je me fie à l'information de Louis de Ragnel, c'est une façon pour moi de lui mettre une certaine pression. Il m'a dit 18h40, donc dans 4 minutes. Hein, mais
dans 4 minutes, vous savez, Emmanuel Macron a passé une batterie de coups de fil. Il a eu le prince héritier d'Arabie Saoudite, le roi de Jordanie, le président des Émirats Arabes Unis, l'émir du Qatar, le chancelier allemand, le premier ministre britannique, le président américain, le premier ministre d'Israël, le président égyptien et le prince héritier de Bahreïn. Donc on voit aussi que Emmanuel Macron a une journée bien remplie.
Donc il est possible que ce soit pas 18h40.
Et
on verra.
Vous maîtrisez pas forcément.
Non, je comprends aisément
les appels des uns et des autres.
Allez, je vous propose d'écouter le colonel Olivier Arafovitch, qui était mon invité ce midi, qui est le porte-parole de l'armée israélienne, qui expliquait les raisons de cette attaque ou de ces frappes. Et quand vous l'écoutez, vous comprenez un peu mieux les choses. Écoutez le colonel Olivier Arafovitch.
15 bombes atomiques étaient en préparation. Les missiles balistiques et l'autre élément étaient également là pour joindre les uns aux autres et créer des armes nucléaires qui mettaient en danger existentiel l'État d'Israël. Et c'est pour cela, je le répète, que les frappes qui ont commencé à 2h15 du matin cette nuit ont eu lieu, parce que sinon, si nous avions attendu plus, nous étions dans une situation de point de non-retour, et là, il aurait été très difficile d'éliminer cette menace. C'est ce que nous faisons actuellement et nous continuons à le faire.
Arnaud Klarsfeld, on évoquait tout à l'heure, vous l'évoquiez vous-même, hein, vous parliez d'une bombe atomique. Le colonel Arafovitch parle de 15 bombes.
15 en préparation.
En préparation.
Moi, j'ai entendu
un haut responsable, un ancien haut responsable politique français avec le. Qu'il y avait une rencontre avec le prétendant au trône, le Shah d'Iran, dire que c'était il y a deux mois, que l'Iran avait déjà une bombe. Bon, alors c'est peut-être en préparation, c'est peut-être, ils n'ont peut-être pas le moyen pour l'envoyer ou le mettre sur le missile, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est pas loin.
Déjà une.
Une, et une, c'est la fin d'Israël. C'est une bombe sur Tel Aviv, c'est la fin d'Israël. Ou alors ils peuvent les confier à des proxys. On a vu tellement de films où il suffit de mettre une bombe. Bon, enfin... Israël a le devoir de se défendre, quoi.
Il était plus urgent d'agir.
80 ans après la Shoah, il ne doit pas y avoir une seconde Shoah en Israël. Donc Israël doit prendre les précautions. Israël n'a pas frappé ni le pouvoir politique, ni les raffineries pétrolières. Donc Israël laisse encore la voie à la négociation. Et j'espère qu'il y aura un accord et que l'Iran démantèlera son programme nucléaire militaire, ce serait la meilleure solution.
Mais quand on voit les réactions des différents dirigeants iraniens, évidemment, on peut douter de tout cela. Noémie Alioua.
Oui, alors on peut parler d'une bombe atomique, de 15 bombes atomiques, ça revient entre guillemets même. Une bombe atomique, c'est une assurance vie.
Si une seule bombe déjà, c'est...
C'est l'assurance vie d'un régime. L'assurance mort d'Israël, l'assurance vie d'un régime qui est profondément déstabilisateur pour toute la région, parce que c'est acté... L'Iran, la République islamique d'Iran, ce régime, il faut toujours faire la distinction parce qu'il y a aussi le peuple iranien qui se bat très courageusement contre ce régime. Ce régime, la République islamique d'Iran, vous le savez, finance et arme un certain nombre de proxys dans la région qui visent justement à la déstabiliser, que ce soit le Hezbollah, bien entendu, mais il y a également les Houthis au Yémen, il y avait quelques milices chiites en Syrie, en Irak, le Hamas aussi, exactement. Donc, si vous voulez, le fait que la République islamique déstabilise la région, et qu'en plus un certain nombre de ses dirigeants appellent à la destruction d'Israël, ça fait que pour Israël, il n'était pas question de pouvoir laisser ce régime faire proliférer son programme nucléaire iranien. Et puis, quelques mots aussi sur ce régime, indépendamment de la menace qui pèse sur Israël. C'est un régime profondément tyrannique. Il faut entendre la voix du peuple iranien. C'est très important. Vous savez, la République islamique d'Iran fait appliquer la charia. La République islamique d'Iran pend les homosexuels, brime les femmes, puisque les femmes n'ont pas le droit de sortir dans la rue sans voile. Il y a la fameuse police des mœurs qui les oblige à se couvrir dans la rue. C'est un pouvoir profondément tyrannique et qui fait appliquer la charia et qui fait souffrir son peuple. Donc, d'aucune sorte de façon, même lorsqu'on ne défend pas les intérêts israéliens, on ne peut soutenir ce régime qui est profondément dangereux, indépendamment de tous les conflits qu'il peut avoir ensuite avec l'État israélien.
Louis de Ragnel.
Non, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'une telle manœuvre militaire, une telle opération avec, rappelons-le, 200 avions de combat, avions de chasse qui ont frappé l'Iran cette nuit, des opérations clandestines organisées par le Mossad. Donc il y a à la fois le Mossad et l'armée israélienne qui participent à la même manœuvre, à la même opération. Les Israéliens vont pas reculer de sitôt. Quand vous faites ça, vous atteignez aussi un point de non-retour. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, c'est des frappes symboliques avec des têtes qui ont été décapitées, avec un certain nombre de sites. Ça permet à Israël de montrer à l'Iran, on sait exactement où sont vos sites d'enrichissement nucléaire, on sait frapper. Il y a eu aussi des destructions de systèmes anti-aériens, voilà, pour bien montrer
à l'Iran.
Et des scientifiques qui ont été neutralisés. Mais il faut bien imaginer, il faut bien avoir en tête qu'une planification comme ça, Israël met en place une gradation. Et donc et souvent c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que la première journée est symbolique, ils attendent de voir aussi à la fois les réactions de l'Iran et la réaction de la communauté internationale, et ensuite il y a un certain nombre d'étapes que l'armée israélienne va mettre en place, et on voit bien que quand vous faites ça, ça fait 15 ans je dis pas que les Israéliens attendent ça, mais les 15 ans que les Israéliens se préparent, en tout cas en cas d'acquisition de la capacité d'utilisation de l'arme nucléaire par l'Iran, à se défendre et à se protéger. Donc, faut bien se dire que ça va pas s'arrêter de sitôt. D'ailleurs, l'armée israélienne et les États-Unis communiquent en expliquant que les opérations ont continué pendant la journée. Et je pense que là, on entre dans une nouvelle phase. Il faudra regarder aussi de très près les répercussions dans la zone, dans la région. Comment est-ce que réagissent les pays arabes? Faut aussi bien se dire que...
C'est important ce qui s'est passé ce matin.
C'est pas simple aussi pour les chefs d'État des pays arabes. Un certain nombre d'entre eux globalement soutiennent Israël, mais ils ont aussi un peuple à gérer, ils ont une rue à gérer, et pas question pour eux d'être renversés parce que justement il y a ce conflit qui à nouveau s'invite en fait dans les discussions politiques au sein de leur pays. Donc voilà, c'est tout ça, ça répond à des équilibres qui sont extrêmement fragiles, mais voilà, une chose bien à retenir, c'est que Israël, en faisant ça, est ultra déterminé. On fait pas ça, on fait pas un one shot. Vous faites pas une telle opération la nuit dernière pour ensuite dire bon bah c'est bon, on a fait ce qu'on voulait, on a fait une frappe d'intimidation.
On ira plus loin.
Non non,
évidemment.
Ça va aller plus loin. Donc c'est pour ça que moi je vois difficilement comment un accord est possible avec les Iraniens sur la question du nucléaire. Et je pense sincèrement que même quand Donald Trump dit la porte est encore ouverte, il sait pertinemment que l'Iran n'est plus dans la situation d'accepter cette main tendue. Et de toute façon, ils n'ont jamais voulu saisir cette main tendue qui a été tendue je ne sais pas combien de fois.
18h43, toujours pas d'Emmanuel Macron.
Écoutez, on va...
Voilà. Je surveille mon écran de contrôle, évidemment, on ne sait jamais. Bon, vous n'avez pas eu 3 minutes, Louis de Ragnel. Hein.
Est-ce qu'on disait tout à l'heure avec lui... C'est pas parce qu'un régime est antipathique et qu'il applique la charia qu'il faut le faire tomber. L'Arabie saoudite n'est pas très sympathique non plus, d'un point de vue intérieur.
C'est moi qui le disais, mais c'était plus pour porter
la défense des intérêts stratégiques. On n'est pas dans la morale.
On renverse un régime s'il est dangereux pour
soi.
Et j'avais fait l'erreur. Enfin, je croyais que l'Irak avait la bombe atomique. En 2003, j'étais pour la guerre en Irak. Mais je croyais aussi que la démocratie pourrait être installée. Et j'ai bien compris depuis qu'il faut laisser les peuples avancer à leur rythme, et ce n'est pas à nous d'imposer leur régime, il faut les laisser aller à leur rythme et les faire tomber, enfin les régimes occidentaux font tomber d'autres régimes uniquement s'ils représentent une menace vitale.
C'est
Israël ne l'aurait pas fait si... l'Iran n'avait pas cherché à acquérir l'arme atomique pour détruire Israël.
Les amis, l'autre actualité, ensuite toujours évidemment l'intervention potentielle d'Emmanuel Macron. On va prendre la direction de Nogent au Haute-Marne avec cette marche blanche qui est partie à 18h depuis le collège de la commune en hommage à Mélanie, cette surveillante qui a été sauvagement tuée par un collégien, je le rappelle, de 14 ans. Oui, 14 ans. On va retrouver Chloé Tarka et Antoine Durand. Est-ce qu'on a Chloé Tarka et Antoine Durand? Est-ce qu'ils sont connectés? Oui, non, pas encore. On retrouvera donc Chloé Tarka dans quelques instants. On va évoquer deux sondages, vous allez le voir. On vous a posé la question, nous les diffusons pour la première fois ce soir. D'après vous, les parents sont-ils responsables ou pas des crimes commis par leurs enfants mineurs? Regardez la réponse. La réponse, ben voilà, 77% responsables, 23% pas responsables. Est-ce qu'on peut voir...
Un peu de bon sens dans la société.
Un peu de bon sens, mais il y a quand même 23% qui disent... voilà. Mais bon.
Allez, faut regarder le positif.
Faut regarder le positif.
Il y a l'écrasante majorité des gens qui considèrent que les parents sont responsables des actes.
Et est-ce que ça vous intéresse en tant que journaliste politique, mon cher Louis, c'est en fonction de la couleur politique? La réponse, est-ce qu'on peut voir ça? David Pujol qui prépare cette émission à mes côtés. Regardez, à 67% pour la gauche, majorité présidentielle 78%, à la droite 81%, extrême droite 88%. Autre question, et puis vous allez réagir et les uns et les autres. Là aussi un peu de bon sens, mon cher Louis de Ragnel. Faut-il sanctionner les parents de mineurs délinquants? La réponse, là aussi, sans aucune ambiguïté. Est-ce qu'on peut voir la réponse est à 80% oui. Et à 20% non, faut-il sanctionner les parents de mineurs délinquants? 80% oui, 20% non.
Et les Français ont beaucoup de bon sens.
Beaucoup de bon sens ce soir, oui. Et toujours en fonction des couleurs politiques, c'est toujours important de voir cela. À gauche, c'est plutôt à 64%. Majorité présidentielle, 85%. À droite, 89%. Extrême droite, 94%. Louis, décryptage, Louis de Ragnel.
C'est plutôt rassurant de ce point de vue-là. Et je pense que c'est une incitation quand même pour le politique à aller beaucoup plus loin.
Bah oui.
On voit, à travers ce sondage, on voit une impatience des Français à durcir beaucoup plus, la répression, la responsabilisation aussi des parents. Ça fait maintenant 25 ans qu'on parle de la responsabilité. Est-ce que les parents sont responsables ou pas? Et je pense que les Français en ont ras-le-bol de la victimisation, de l'excuse systématique. Et les gens aussi ont bien compris que je pense que que dans certains foyers où il y a rien qui fonctionne, eh bien peut-être que si les parents doivent payer, si les parents doivent aller au commissariat, doivent répondre des actes de leurs enfants, peut-être que les enfants aussi par eux-mêmes voudront pas faire ça à leurs parents.
Mais vous savez, c'est ce qu'on disait pendant la pause publicitaire. C'est vrai que le constat c'est bien, mais à un moment donné, on le voit avec tous les sondages que nous sortons sur CNews et sur Europe 1. Les Français sont dans l'attente de
réponses. Ils veulent de la radicalité. En réalité,
ça fait l'autorité.
Ils veulent de la radicalité.
Et c'est peut-être en ce sens que Bruno Retailleau, vous savez, on dit toujours le grand homme politique, c'est l'homme qui arrive au bon moment de l'histoire et qui rencontre aussi un peuple et une volonté populaire. Et c'est vrai que Bruno Retailleau incarne cette autorité. Alors on va voir à quel point il va l'incarner dans les actes, hein, parce que pour l'instant c'est plutôt des grandes paroles, des grandes déclarations, mais malgré tout des prises de position de façon assez affirmée. Bruno Retailleau, c'est l'homme aujourd'hui qui incarne et qui défend l'autorité et qui rencontre un vrai désir populaire. C'est ce qu'on voit à travers ce sondage et c'est ce qu'on voit à travers à peu près tous les sondages qu'on voit régulièrement et qui concernent cette demande populaire qui aimerait simplement pouvoir vivre tranquillement et trouver des solutions pour qu'on responsabilise les jeunes qui soient délinquants, qui ne respectent pas la loi d'une façon ou d'une autre.
Patrick,
tout le monde est d'accord sur le principe. J'en discutais avec Arnaud Klarsfeld à la pause. Vous savez ce qu'on fait au Royaume-Uni, ils le font, hein, ils expulsent les parents des logements sociaux. Bon, est-ce qu'en France, on est prêt à faire cela? Est-ce qu'on est en France prêt
à... Public, oui.
Oui, mais vous allez voir certains partis politiques.
Voilà.
Vous imaginez la réponse,
prêt à sucrer.
Je cible personne,
est-ce qu'on est
Patrick, ce soir.
À couper les allocations familiales des parents dont on pense qu'ils sont irresponsables, qu'ils ne sont pas occupés de l'éducation de leurs enfants. C'est ça, aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt à prendre des mesures essentielles sur, effectivement, pour responsabiliser les parents? Et voilà ce qu'on fait au Royaume-Uni. Et enfin, quand on parle de famille. Beaucoup de familles monoparentales aussi, hein. La femme seule qui élève ses enfants, qui est parfois en grande difficulté, c'est pas nécessairement une excuse, mais il y a de plus en plus de familles monoparentales et ça, effectivement, on hésitera avant de faire un certain nombre de mesures extrêmement concrètes qui seront nécessairement violentes. Voilà. Et par rapport à ce jeune de 14 ans qui a tué cette surveillante, cette enseignante,
il n'exprime aucun remords.
Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille? Ça, c'est très important. Et vous savez, on dit, il ne faut plus d'excuses de minorité. C'est vrai quand on a 16, 17 ans, voire 15 ans. Mais là, 14 ans. Donc c'est grave, ça veut dire que la violence chez les gamins, elle peut commencer à 13 ans, elle peut commencer à 13, 14 ans. Qu'est-ce qu'on fait exactement pour prévenir et pour sanctionner ce type de comportement?
Ce jeune garçon, je ne sais pas quoi. Mais pas en plus, 4 ans, 5 ans, 6 ans de prison.
À la fin, je pense que ce ne sera pas tellement plus.
Oui, de Ragnel.
Mais en fait, quand on regarde quand
la
même...
La famille de cette surveillante a pris perpétuité.
Au-delà de cette histoire, ce dont manque cruellement la jeunesse, pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps des jeunes qui sont désœuvrés sur leur téléphone portable, les jeux vidéo, tout ce que vous voulez, parce qu'il n'y a plus d'idéal, il n'y a plus rien qui élève. Qu'est-ce qu'on transmet aujourd'hui à la jeunesse de France? C'est pas avec les valeurs de la République, plus jamais ça, vous n'aurez pas ma haine. C'est pas ça qui grandit, c'est pas ça qui élève. Et moi, je pense qu'il y a besoin aussi, voilà, de alors ça demande un tout petit peu de courage, mais de réhabiliter un vrai roman national, une histoire dont on est fier. Et puis, je pense qu'il faut que la jeunesse soit à nouveau éduquée. Vous savez, les enfants, ils ont besoin que l'essentiel de ce dont ils ont besoin, c'est que leurs parents passent du temps avec eux. C'est difficile d'éduquer un enfant. Il faut consacrer énormément de temps. Et l'autorité naturelle, en fait, ça se décrète pas. L'autorité naturelle dont doivent faire preuve les parents, c'est en vivant avec leurs enfants, c'est en s'en occupant. C'est pas en déléguant leur autorité de parents à l'éducation nationale.
Mais vous savez, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Noémie Alioua. On pointait l'action et la réactivité de Bruno Retailleau. Mais c'est 2 ans encore, potentiellement, le gouvernement Macron.
Oui,
c'est long. Hein, c'est long, 2 ans. Quand on évoque tous ces sondages et ces souhaits, ces attentes des Français, s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas d'acte fort, en donné, les Français vont se lasser.
Et ils vont surtout s'énerver.
Et ils vont surtout s'énerver,
on est d'accord. Vous avez vu la bascule dans le discours aujourd'hui des victimes. Il y a 10 ans, les victimes se taisaient. ou alors les médias ne s'intéressaient pas à elle, et c'était, ou alors le discours c'était vous n'aurez pas ma haine, et on expliquait que la grandeur c'était surtout de n'exprimer aucune haine, aucun désir de vengeance. Aujourd'hui les gens, je dis pas, je ne fais pas l'apologie de la vengeance, simplement les gens veulent des réponses et veulent que le drame qui leur est arrivé n'arrive plus jamais à d'autres. Et non, je trouve qu'il y a une vraie prise de conscience du bien commun, du sens commun à travers les cas individuels. Regardez la mère d'Elias, elle parle même plus d'elle, elle parle quasiment plus de son fils, elle dit simplement ce qui est arrivé à mon fils, je veux que ça n'arrive plus à aucun Français.
Et en même temps, ils ont eu l'occasion, ils ont eu l'occasion de.
Louis vient de pointer quelque chose de très intéressant.
Les Français ont eu l'occasion juste de
rapidement.
Les Français ont eu l'occasion de voter en juin 2024. Ils n'ont pas choisi la radicalité.
Alors ça.
Ils n'ont pas choisi.
La traduction dans le vote est toujours un mystère.
Et on se demande s'ils la choisiront en 2027.
Et on verra.
Si, c'est bon.
Louis,
ils sont contradictoires dans leurs attentes et dans leurs solutions pour obtenir ces attentes.
Très rapidement, Louis de Ragnel, l'autre sujet du jour, c'est l'intervention d'Emmanuel Macron. Donc, il est 18h53, c'est pas 18h40, évidemment, mais vous aviez aussi raison. À quoi peut-on s'attendre?
La patience, Cyril, une vertu théologale.
C'est vrai. À quoi peut-on s'attendre?
Bon, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises dans le discours d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, maintenant, ça fait plusieurs mois, dès qu'il s'exprime sur le sujet, c'est à peu près la même chose. Il va sans doute appeler à la paix, à l'apaisement, à ce que les deux parties baissent d'un cran. Sauf qu'en réalité, on voit bien que ce qu'a fait Israël la nuit dernière, c'est quelque chose de mûrement réfléchi et c'est une fin de non-retour. Israël ne va pas reculer. Israël a fait un choix ultra déterminé et comme on le disait tout à l'heure, dans ce type de manœuvre d'opération militaire, vous n'envoyez pas 200 avions de chasse, vous ne faites pas des frappes symboliques de telle ampleur, vous n'envoyez pas le Mossad faire des assassinats ciblés de cette manière-là pour deux jours après dire « Ah bah finalement c'est bon, tout est pardonné, on arrête, on revient en arrière ». Non, Israël est déterminé, il y a un plan gradué, ça va être étape par étape comme vous faites, comme toutes les planifications militaires. Mm-hmm. Je ne sais pas quelle est l'étape d'après qui est prévue par l'armée israélienne et le pouvoir politique israélien, mais voilà, le message qu'il faut bien intégrer ce soir, c'est que c'est pas une frappe symbolique et Israël ne s'arrêtera pas là.
Patrick Martin-Jeunier.
Oui, vous montriez tout à l'heure l'intervention du Premier ministre François Bayrou. Ce qui est intéressant sur le plan institutionnel, vous savez, on a toujours dit, sous la Ve République, la politique étrangère, c'est le domaine réservé du chef de l'État. Il n'en demeure pas moins que le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Il y a un ministre des Affaires étrangères. On voit bien que peut-être il y a des divergences entre le Premier ministre et le Président de la République. Et qu'aujourd'hui, malgré tout, la parole du chef de l'État, on vient de le dire, est affaiblie sur le plan international. Et sur le plan national, on voit bien que il n'est plus le seul à exprimer un certain nombre de choses. Donc, il y a le discours du chef de l'État, mais c'est quand même le gouvernement qui dirige la politique de la nation et qui, dans les faits, dirige aussi une partie de la politique étrangère. Donc, on verra bien quelle est l'articulation entre le gouvernement et le président de la République sur ce point.
Et on va remercier les auditeurs d'Europe 1 qui vont nous quitter, mais on va rester sur CNews. Et j'en profite pour saluer Pascal de la Tour du Pin, que vous allez retrouver sur Europe 1.
Super idée ce restaurant.
Bah oui, ça nous change un peu.
Bonjour Madame Laura, comment allez-vous depuis la semaine dernière?
Votre table habituelle Madame Laura?
Bah Madame Laura, t'as gagné au loto ou quoi?
Oh,
loto, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce vendredi 13, super loto de 13 millions d'euros minimum à partager au rang 1, voire règlement.
FDJ.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Mercedes-Benz.
Il vous faut quoi pour passer à l'électrique? Une grande autonomie, un SUV compact ou un SUV 7 places? Un loyer attractif? Et pourquoi pas une Mercedes? Jusqu'au 30 juin pendant les Star Days, profitez de l'EQA et de l'EQB 100% électrique avec le pack AMG Line des 399 € par mois.
Location longue durée 37 mois, 45 000 km. Premier loyer de 399 €, bonus écologique de 2 000 € déduit si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Pensez à covoiturer.
Bah j'ai fait le tri dans mes bijoux en or.
Oh, c'est
tri. Je les ai revendus chez Euro Cash. Ça me paye tous mes festivals de l'été.
Revendez vos bijoux et profitez pleinement de votre été avec Or en Cash.
Or en Cash achète cash.
Transaction réservée aux majeurs et soumise à réglementation. Paiement par chèque ou virement.
De prime abord, personne ne déprime à l'idée de recevoir une prime. En prime, une prime, c'est une bonne nouvelle.
En ce moment, chez Nissan, la très bonne nouvelle, c'est la prime à l'hybride jusqu'à 7000 euros. Oui, 7000 euros. Pendant les jours hybrides Nissan, ne manquez pas cette prime exceptionnelle sur tous les crossovers hybrides Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Rendez-vous vite en concession Nissan pour en profiter.
Nissan.
Remis jusqu'à 4000 euros sur Juke Hybrid, 5000 euros sur Qashqai et 7000 euros sur X-Trail 9, identifié en stock jusqu'au 30 juin par rapport au prix au 1er mars. Détail Nissan.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Observons un bricoleur à tête froide dans son jardin. Il cherche la fraîcheur durant la saison chaude. Et sur Mano Mano, il trouve les parasols, clim et piscine pour enfin les arder tout l'été. C'est ça, l'effet Mano Mano.
Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
Offre soumise à condition, voir détails sur manomano.fr.
Ah ouais, enfin une place.
Ah ça, à mon avis, c'est un peu petit pour toi, ça. Tu sais, là, c'est, le créneau, c'est tout un art. Alors peut-être que moi, à la rigueur...
Papa,
parce que
je, oui, je suis garé.
Tu es garé.
Eh ouais.
T'es bien le fils de ton père, toi.
Découvrez toute l'agilité de la Toyota Aygo Cross. Disponible à partir de 119 euros par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end.
Ah, c'est bien beau de se garer, mais se dégarer...
Toyota Aygo Cross Dynamic LLD, 37 mois, 30 000 km. Premier loyer, 3 990 euros, réservé aux particuliers dans le réseau participant pour toute commande jusqu'au 30 juin. Détails sur toyota.fr. Pensez à covoiturer.
Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos fruits et légumes ont tout de très bons fruits et légumes. Tendres, savoureux et parfois agrémentés d'un petit... Ah moi, les fruits et légumes, ça me donne une forme olympique. Oui, vraiment, ils sont très bons, mais à prix discount, puisque nos clients les payent 23% moins cher que la moyenne du marché. Eh ouais, Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. Source Kantar, prix moyen payé au kilo de fruits et légumes chez Aldi versus prix moyen payé au kilo sur le marché, cumule 4 semaines au 23 mars 2025.
Les plus belles choses arrivent souvent à la dernière minute, comme le but décisif du match. Ou cette offre qui te change l'été.
Costa vous sauve à la dernière minute. Réservez votre croisière d'été de 8 jours à partir de 699 euros par personne. Dépêchez-vous, c'est jusqu'au 30 juin. Info en agence ou sur costacroisière.fr. Costa.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 E-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin.